Vous êtes sur RTL. Sur RTL.
Merci Christelle. Nous sommes donc avec Elisabeth, même si la liaison n'était pas formidable à l'instant.
Oui.
Est-ce que ça va
oui.
mieux, Elisabeth ?
Est-ce que vous m'entendez mieux là ?
Voilà, Bouches-du-Rhône. Vous habitez dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes infirmière.
Oui.
Vous allez vacciner. Vous vaccinez, sans
non,
doute ?
Non, pas encore. Je ne vaccine pas encore. Non, non, on attend. On attend les consignes, bon. On attend les médecins, on attend tout ça. Quoi.
Mais voilà. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le rapport à l'AstraZeneca notamment.
Oui.
Est-ce que les gens que vous rencontrez ont
oui.
une petite appréhension ?
Une grosse appréhension, oui, avec tout ce qu'on a entendu sur le gouvernement qui avait arrêté. Les gens, si vous leur demandez, ils vous disent non, j'attends le Pfizer, voire d'autres qui prochainement vont venir, comme le Johnson, qui a pour le moment une bonne écoute. Voilà, mais il y en a avec AstraZeneca, surtout que l'AstraZeneca, au départ, si je ne m'abuse, était pour les personnes plus jeunes.
Oui, ben...
Hein donc voilà. Et maintenant,
c'est-à-dire qu'au départ, effectivement, les personnes âgées, en tout cas seniors, mm-hmm. ne devaient pas l'avoir. Et puis après, finalement,
voilà.
c'est le contraire qui
c'est
est arrivé.
Contraire.
Donc c'est ce qu'on appelle un vaccin mal né.
Oui. Tout ça perturbe beaucoup de gens. Surtout que bon, dans ma clientèle, moi, dans ma patientèle, j'ai beaucoup de personnes âgées à domicile qui ne bougent pas. Donc pour le moment, il n'y a que l'AstraZeneca si on les vaccine. Et bon. Les gens, les enfants sont pas très, très, très chauds. Mais enfin, bon, moi, je suis du principe que, bon, maintenant qu'il y a eu des études et tout, il faut vacciner avec les vaccins que l'on a. Parce que le Pfizer, lui aussi, doit avoir des effets secondaires. On ne le sait pas forcément. La presse ne le dit pas, mais bon, il y a des effets secondaires aussi. Donc voilà. Moi, je pense qu'il faut vacciner avec les vaccins. Voilà, avec les vaccins que l'on a.
Oui, mais d'autant qu'il n'y a pas de risque statistiquement de différence entre AstraZeneca et par exemple Pfizer.
Oui.
Donc c'est simplement comme on parle de vaccin mal né parce qu'on a suspendu le vaccin, mm-hmm. parce qu'effectivement on a eu là encore des injonctions contradictoires, les gens ils sont perdus. Voilà,
exactement. Et nous aussi, alors des fois on n'a pas trop les réponses, on dit on attend, posez la question à votre médecin parce que le médecin est là aussi, hein, il est là, c'est les moi, mes patients écoutent leur médecin. Bon, alors moi, je donne mon avis, mais le médecin est avant moi. Et si le médecin est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais les vaccins, on les attend. Hein. On les attend pour le moment. Voilà.
Écoutez, voilà. Vous savez qu'hier, parce qu'on en a assez peu parlé, ce matin, ça a été dit dans la matinale de RTL, le Stade de France était fermé.
Il n'avait pas de vaccin. Eh oui.
Parce qu'il n'avait pas de vaccin. Donc le vaccinodrome du Stade de France n'a pas fonctionné hier. Alors, il y a un problème peut-être de bénévoles également, mais il n'y avait pas assez de doses. Donc, c'est, sais, quand même très, très ennuyeux. Mais bon, on a l'impression de se répéter et de dire ça tous les jours.
Donc, voilà. Donc, maintenant, il faut se tester avec les autotests qui arrivent ou qui n'arrivent pas. On les attend. Voilà, écoutez, les gens attendent les vaccins. Moi, je pense que c'est par là qu'on va s'en sortir. On espère. On espère absolument ça. Hein, parce que, alors, on ne va pas vivre des vitam aeternam comme ça.
Ça, c'est une vraie question, Elisabeth, maintenant.
Oui.
Je vous assure, c'est une vraie question.
Je
pense qu'on a mis le doigt dans un truc dans lequel il ne fallait pas aller. Et qu'aujourd'hui, avant de retrouver notre monde d'avant, ça va être compliqué. Mais je
ça
le dis depuis le départ, donc je le dis depuis novembre, quand on m'a annoncé les restaurants ouverts en janvier, franchement, j'y ai pas créé une seconde. Quand on me les annonce le 15 mai, j'ai pris l'engagement avec l'ami Christelle, il y a 8 jours ou 10 jours, de lui offrir ma chemise, Paris ma chemise, si on y était le 15. Je pense qu'on est dans une logique qui me paraît... aujourd'hui enfermiste toujours et tout le temps. Donc,
Oui, je suis d'accord avec vous. D'autant plus qu'on entend des pays où le virus avait diminué et donc ils ont vacciné et là ils reconfinent.
Mais oui, parce que tu auras toujours un variant, c'est le cas au Chili. Chili,
voilà.
40% de vaccinés, on reconfine.
D'accord. Donc c'est la folie, c'est la folie.
Ah ben une peur pour cet été. Oui. Hein, c'est une peur pour cet été. Et alors j'espère évidemment me tromper, mais bon.
Oui, pour l'été, pour l'automne qui vient, et rebelote, on recommence. Hein.
Merci en tout cas, Elisabeth. On va essayer de se redonner quand même le moral aujourd'hui, parce qu'il est
13h06. Et ce que j'ai entendu dire là récemment, hier je crois, qu'on passe à la première injection, comme on fait en Angleterre.
Bien sûr.
Pourquoi pas, ça c'est bien aussi.
Bien
voilà.
sûr, mais là encore, c'est maximum. Ce qu'il fallait faire au départ, donc... Il faudrait apprendre un jour de ses erreurs, mais bon, c'est pas toujours le cas, hélas. Merci beaucoup, Elisabeth, c'est un prénom évidemment, ces jours-ci, qui est souvent citée dans la presse. Ça ne vous a pas échappé, Elisabeth?
Oui. Ça nous a fait de la peine, quand même. Hein. Philippe, il était sympa, quoi.
On a fait une émission d'une heure et demie, vendredi. Oui. Mais si vous voulez revenir sur le prince Philippe, pourquoi pas? Mais on va surtout parler vaccins aujourd'hui. Je salue Greg Caradoni.
Bonjour à tous.
Qui a sans doute passé un bon week-end à moins de 10 km de chez lui.
Absolument, je suis resté parfaitement dans le rayon. Je suis content de vous retrouver avec votre optimisme légendaire.
Mais non. Bon, ben, alors, écoutez, franchement, je suis un peu lucide. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'essaye de comprendre les logiques de ceux qui nous gouvernent. Vous direz, c'est pas très compliqué. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
Bonjour Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. La vaccination est élargie dès aujourd'hui à toutes les personnes âgées de 55 ans et plus. Elles recevront l'AstraZeneca ou bientôt le vaccin de Johnson & Johnson. Et bien Grégory, sur la page Facebook de l'émission, se félicite de cette avancée. Yves a 57 ans, je vais m'inscrire. J'ai prévenu mon père qui a 58 ans, nous dit Kevin. Il ne faut pas perdre de temps. Enfin on accélère, écrit Morgane. On a tous envie de reprendre une vie un peu plus normale. Et vous, si vous êtes concerné, comptez-vous vous faire vacciner? 32-10. Depuis l'arrivée du Covid-19, est-on tombé dans une époque de délation? C'est la crainte du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, interrogé hier par nos confrères de France Télévisions.
Je voudrais m'arrêter une toute petite seconde sur l'époque dans laquelle nous vivons, dans laquelle, pour ne rien vous cacher, moi j'ai parfois du mal à me retrouver. Est-ce qu'on veut une époque de délation? Est-ce que l'on veut une époque de calomnie, de suspicion?
Eh bien, la délation ne me choque pas, écrit Serge sur la page Facebook RTL. Les auditeurs, la parole à partir du moment où certains ne respectent pas les règles, sortent après le couvre-feu, organisent des soirées, ouvrent clandestinement leur restaurant. Oui, il faut le dire, si tout le monde triche, on ne s'en sortira jamais, lance Véronique. Et que les politiciens arrêtent aussi de se moquer de nous, s'énerve Thierry. Quand je vais déjeuner chez des amis, je ne passe pas ma carte bancaire pour payer le repas. Partagez-vous ces avis, 3210, 3210 dès maintenant sur votre téléphone.
C'est vrai que c'est un bon thème, la délation. Et que ce week-end, on a le sentiment, avec cette affaire Hortefeux Duhamel, d'avoir été parfois en 42. Parce que la manière dont ils ont été désignés tous les deux à la vindicte populaire interroge quand même sur le climat du moment. Nous sommes avec Stéphane, qui est conducteur de bus à Lyon. Bonjour Stéphane.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Alors, vous n'avez pas 55 ans, c'est important de le dire. Parce qu'on va parler de la vaccination, donc vous n'êtes pas exigible, si j'ose dire, à la vaccination.
Non, mais je ne me sens pas concerné non plus par ce qu'on appelle un vaccin, mais qui n'est pas un vaccin, en fait.
Stéphane, je voudrais pas qu'on rentre là-dedans avec toute la... la modération que je dois avoir sur ce thème. Parce que si on commence à dire que le vaccin n'est pas un vaccin, j'ai peur d'abord que ce soit médicalement, scientifiquement, sanitairement faux.
Mais non, un vaccin protège d'une maladie. Quand vous vous faites vacciner contre le tétanos, vous n'attrapez pas le tétanos. Là, ça n'empêchera pas d'attraper le Covid, ça empêchera simplement les formes graves. Et ça n'empêchera pas la transmission.
Stéphane, je ne veux pas qu'on rentre là-dedans, parce que je vous assure qu'on a eu ce débat 12 millions de fois, c'est toujours délicat de contrer un auditeur, mais vous avez forcément raison pour vous, si vous pensez ça, je le dis souvent, c'est une formule que j'utilise souvent, parce que je ne veux pas vous contrer, mais c'est un vaccin, et c'est un vaccin qui protège. Voilà, qui vous empêche...
Des formes graves, pas de la transmission.
Mais, pas que des formes graves. Vous serez immunisé contre le Covid-19 dans 80 ou 90% des cas.
Ça n'empêchera pas de l'attraper.
Mais je ne crois pas. Je crois, Stéphane, que vous faites erreur. Je crois que vous faites erreur. Vous êtes immunisé contre le Covid-19, contre la Covid-19 à 90%, je crois, d'efficacité.
Ok, bon, le langage, oui.
Moi, je veux bien qu'on appelle un médecin, hein, mais Stéphane, ça fait 10 fois qu'on a ces dialogues-là. Mais moi, je suis toujours ennuyé parce que j'ai pas envie de vous contrer. Vous nous appelez très gentiment.
Mais le problème, c'est qu'on entend toujours le mot vaccin, vaccin, vaccin. Ce n'est pas un vaccin. Un vaccin, lisez la définition, c'est quelque chose qui protège d'une maladie.
Alors écoutez, moi je veux bien qu'on appelle le docteur Marty qui entre avec vous, mais la difficulté c'est que j'ai l'impression que même si le docteur Marty vous dit cela, j'ai l'impression que ce discours-là que vous avez, vous n'êtes pas le seul, quoi que nous disions, vous resterez sur votre position. Même si le plus grand, si Axel Kahn, les généticiens, tout le monde vous dit « Monsieur Stéphane, c'est un vaccin », vous direz « Non, je n'y crois pas » ou « je n'en ai pas envie ». C'est ça qui est difficile dans cette période.
Ben, je sais pas, mais 1 plus 1, ça fait 2. C'est un fait.
Là-dessus, nous sommes d'accord.
On est d'accord. Ben, voilà,
bah, écoutez, vous savez ce qu'on fait, Stéphane, voilà. Vous restez avec nous et on appelle le docteur Marty. Comme ça, parce qu'il y a plein de Stéphane qui sont avec nous et qui nous écoutent peut-être, et peut-être qui ont envie d'être rassurés. Donc Stéphane reste avec nous et nous sommes avec Eric. Eric qui habite en Ille-et-Vilaine. Bonjour Eric.
Bonjour, bonjour.
Bon. Vous avez 55 ans pile ?
Alors moi, je vais avoir 57 ans septembre prochain.
Non. Septembre 64.
Ah, c'est la meilleure année.
Bah, surtout ce mois-là, septembre 64. Quel jour de septembre, Eric ?
Le 25.
Ah, bah écoutez, franchement, nous avons quelques jours de différence.
Ah ouais.
Bon, donc vous allez vous faire vacciner ?
Je vais me faire vacciner. Donc j'ai entendu l'annonce de ce week-end du gouvernement par laquelle les gens de plus de 55 ans, bon, vous pouvez se faire vacciner sans restriction de conditions médicales. Et donc ce matin, 8h15, j'ai été au cabinet médical où je suis suivi, où j'ai été m'inscrire sur une liste d'attente. À 9h, je partais au centre de sang Suyon pour donner mon sang et j'ai eu un coup de téléphone par lequel on me proposait de me faire vacciner demain à 15h20.
Eh ben écoutez, c'est parfait.
Ah, c'est ce que j'attends depuis le début. Depuis que les vaccins existent, je suis dans les starting blocks.
Et vous avez demandé un vaccin préféré ou souhaité ou peu importe ?
Peu importe.
Donc AstraZeneca ne vous fait pas peur ?
Non. Je pense que j'étais un peu comme tout le monde au départ de la vaccination. J'ai eu un peu de retenue parce que c'était tout nouveau, tout rapide et tout ça. Mais bon, après, j'ai mon fils et ma belle-fille qui travaillent dans le milieu médical, son médecin. Mon fils a été vacciné par l'AstraZeneca il y a quelque temps. Bon, il a été un peu malade, genre symptôme grippe pendant 24 heures et puis terminé. J'ai d'autres amis qui sont plus âgés que moi, qui ont été vaccinés avec l'AstraZeneca avec des comorbidités, qui n'ont eu aucun effet secondaire. Et à côté de ça, j'ai deux amis personnels qui ont eu des Covid graves depuis mars l'année dernière, dont un qui n'a toujours pas repris le travail à plein temps, qui lui a détruit certains organes de son organisme, mais il n'a pas été hospitalisé. Et un autre ami, qui était un collègue de travail, qui lui a fait 15 jours de coma artificiel, avec perte de 15 kilos, et tout ce qui va avec. Donc, je pense que le vaccin, si on peut éviter tout ça, même si on l'attrape sous une forme plus légère, ça vaut vraiment le coup, quoi.
Bah, il me semble aussi, Eric. Merci en tout cas de votre témoignage. On va marquer une pause, mais le docteur Marty est avec nous. Je le salue, docteur Marty.
Bonjour.
Ça me fait plaisir. Vous savez pourquoi ? C'est bien la première fois que je suis content d'avoir plus de 55 ans. Parce que je peux me faire vacciner depuis ce matin. Donc, généralement, on n'est pas trop content d'avoir plus de 55 ans. Mais là, hop.
Donc, vous allez y courir, j'espère.
Je vais courir. Courir, c'est un bien grand mot pour un homme de stage là, mais je vais essayer de marcher vers la pharmacie ou le médecin, cher docteur. Bon, vous allez pouvoir dialoguer avec Stéphane parce qu'il a des choses à vous dire sur le vaccin. Donc Stéphane, Jérôme Marty, un auditeur, un médecin, c'est tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Jérôme Marty est avec nous, vous le connaissez. C'est un médecin qui intervient régulièrement sur les antennes. Et Stéphane est avec nous. Stéphane, est-ce que vous pouvez peut-être redire ce que vous me disiez, mais moi je ne suis pas compétent, ce que vous disiez à l'antenne et le dire à Monsieur Marty.
Bonjour docteur.
Bonjour.
Voilà, alors... Alors, ce qu'on appelle un vaccin contre le Covid n'est pas un vaccin. J'ai sous les yeux la définition du Larousse, substance d'origine microbienne, microbe vivant atténué, ainsi de suite, qui, administré à un individu ou à un animal, lui confère l'immunité à l'égard de l'infection déterminée. L'immunité, c'est-à-dire qu'on ne chope pas la maladie. Or, ce qu'on nous injecte là ne nous empêche pas d'avoir la maladie, il empêche simplement d'avoir la maladie avec des formes graves. Donc ce n'est pas un vaccin.
C'est le principe de plein de vaccins, je vous rappelle. C'est le principe du vaccin, par exemple, contre la grippe. Le vaccin contre la grippe ne vous empêche pas de faire la grippe. Oui, et vous faites une grippe moins, avec moins de symptômes. Comme souvent voilà, les vaccins. Donc, pourquoi? Parce qu'ils renforcent votre immunité. En renforçant votre immunité, il vous permet de mieux lutter contre la pathologie, mais il n'éradique pas totalement la pathologie.
Lorsqu'on est vacciné contre le tétanos, on n'attrape pas le tétanos.
Oui, suivant les maladies, c'est vrai. Mais vous avez d'autres maladies où le vaccin vous renforce votre immunité et vous faites quand même la maladie, mais vous la faites de façon moins développée.
C'est ça. Voilà, donc ce n'est pas un vaccin.
Mais si, c'est un vaccin, pareil. C'est un vaccin. Mais où vous voulez en venir, de toute façon?
Eh bien, c'est... Non, mais c'est le terme de vaccin, moi, qui me gêne depuis des mois, en fait. C'est parce que ce n'est pas un vaccin. Un vaccin protège de la maladie. Un vaccin immunise et empêche la transmission. Le problème, c'est que là, dans ce cas-là, ça n'empêchera pas la transmission. Vu qu'on sera malade, on sera également contagieux.
Il immunise. Vous pouvez très bien être atteint par la pathologie, mais vous ferez une forme asymptomatique ou très peu symptomatique. Quant à la contagion liée à la personne sous vaccin, les éléments que l'on peut avoir maintenant nous montrent que vous êtes pas contaminant ou très peu contaminant, contrairement à ce que l'on pensait jusqu'à présent.
D'accord.
Donc il y a une efficacité sur la contamination.
D'accord. Donc en fait, on continue en fait de il faut vacciner. Alors pourquoi ne pas rendre le vaccin obligatoire s'il n'y a aucun risque?
Mais c'est pas la question n'est pas qu'il y ait aucun risque. La question, si vous voulez, c'est que nous sommes sur une pathologie nouvelle et que sur une pathologie nouvelle, vous ne pouvez pas rendre un vaccin obligatoire parce que vous fonctionnez en confiance avec la population qui vit cette affection-là depuis un an, avec les dégâts que l'on connaît sur le plan économique, sociétaux, sanitaires, etc. Et donc, vous devez avancer dans la plus grande confiance et avec l'explication. Si vous obligez, vous allez avoir encore plus de gens qui vont être dans le doute, etc. Nous, on est là pour porter le soin, pour expliquer le soin, pour le construire avec les patients. Ça doit se faire dans la confiance.
Mais la confiance, moi, j'ai plus aucune confiance, moi, dans les citoyens. Quand je vois ce confinement qui ne ressemble à rien, c'est pas un confinement. On est dans un jardin d'enfants.
Stéphane, c'est pas le même sujet. Moi, j'interviens pas parce que je trouve formidable votre échange, pour tout vous dire.
Si, parce que le problème, c'est qu'on vaccine, mais on laisse les gens circuler. Donc la maladie circule encore.
Mais qu'est-ce que vous voulez alors, Stéphane? Ça serait quoi votre alternative?
Eh bien, un vrai confinement.
Maintenant, vous voulez un vrai confinement?
Mais bien sûr, un vrai confinement, avec toutes les mesures qui s'imposent. C'est-à-dire que. Quel intérêt d'ouvrir les magasins de vêtements, les magasins de bricolage, les machins?
Mais c'est pas vraiment le thème du départ, sauf que vous avez un poil dévié. Est-ce que vous êtes convaincu par ce qu'a dit M. Marty?
Alors,
est-ce que vous avez changé d'avis, en clair?
Non, j'ai pas changé d'avis, parce que pour moi, ça ne reste pas un vaccin. Le problème, c'est que on peut pas tout miser là-dessus.
Vous avez raison, il ne faut pas tout miser là-dessus, mais Jérôme Marty vous répond.
Ce que dit votre auditeur, c'est qu'il aimerait que l'on mette en place la solution anglaise. L'Angleterre a énormément vacciné et elle a confiné de façon très dure. Elle a donc écrasé la courbe et elle a multiplié les vaccinations et aujourd'hui, elle est sur, par exemple, une ville comme Londres, qu'on pourrait appeler mégapole, elle est sur des chiffres de décès qui sont inférieurs à la dizaine. Donc, elle a réussi son pari avec les deux. Nous, ce que l'on pourrait reprocher, effectivement, c'est pas tant un confinement light, entre guillemets, que le fait qu'à côté de la vaccination, on ne mette pas d'autres moyens de type véritablement le paquet sur les autotests, sur les tests salivaires, sur le rétrotracing, sur le dépistage des eaux usées, tout un tas de choses qui font que, parallèlement à la vaccination, on renforce la lutte contre le virus.
Moi, le problème, c'est qu'on nous parle de confinement avec des mesures, avec 8 mètres carrés par personne dans les magasins, et ainsi de suite. Mais un bus, ça fait 30 mètres carrés. D'accord? Ça fait 30 mètres carrés au sol, un bus. Mm-hmm. 30 mètres carrés, vous avez 100 personnes à l'intérieur.
Amenez dans votre bus un détecteur de CO2. Munissez-vous d'un détecteur de CO2 et faites l'expérience et vous verrez comme ça si votre bus est suffisamment aéré ou non. C'est ça la meilleure expérience à faire.
C'est pratique d'entrer dans le bus avec un détecteur de CO2.
Le détecteur de CO2, ça tient dans la poche.
Mais ils ne sont pas aérés, les bus.
Bon, en tout cas, je trouve... on va garder quelques secondes, Jérôme Marty. Je vais vraiment remercier Stéphane parce que c'était intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que je pense que Stéphane porte une parole. Vous n'êtes pas le seul à penser comme ça. Moi, ça m'ennuie un peu que vous pensiez comme cela, Stéphane, même
vous
si
savez,
je comprends qu'après un an... Je vous en prie.
Si je peux me permettre, vous savez, on entend les gens qui se plaignent. Oh, le confinement. Moi, c'est les personnes dehors. Vous voyez, il y a, voilà, les gens qui se plaignent d'être confinés, et puis moi, je me plains, en fait, des gens qui sont tout le temps dehors. Quand je vois les quais Saint-Martin, quand je vois les quais de Saône, quand je vois ceci, quand je vois cela, quand je vois les dîners clandestins, quand je vois les boîtes de nuit, mais moi, j'ai qu'une envie, moi, c'est de tout faire péter quand j'entends, quand je vois des
Non, mais il n'y a pas de boîtes de nuit et des dîners clandestins, c'est à la marche, ça concerne 10 personnes ou 20 personnes, c'est
mais
pour ça
rigolez.
Que... Non, je
vous
crois
rigolez.
Pas, ça concerne...
Il y a quand même une différence fondamentale, c'est que le confinement est ponctuel, la vaccination, c'est permanent. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas demander à ce qu'on confine les gens en permanence. Par contre,
une fois
qu'on a vacciné la totalité de la population, on peut en sortir. Et si on a rajouté les mesures dont je vous parlais tout à l'heure. Mais le confinement, on ne peut pas y revenir tous les 4 mois, ce n'est pas possible.
Non mais Stéphane, je me permets de dire que vous êtes chauffeur de bus, c'est cela ?
C'est ça.
Bon, donc, vous serez payé pendant un confinement. Serez payé pendant un confinement. Vous n'avez pas de soucis. Vous êtes salarié. Vous serez en chômage peut-être partiel ou vous serez salarié. Qui vous paye aujourd'hui ?
Une société privée.
Oui, donc vous serez sans doute payé. Il y a des gens, les libéraux, les restaurants, il y a des possibilités de recevoir de l'argent, mais il y a des gens qui n'ont plus un centime aujourd'hui. Plus un centime. Moi, j'ai croisé tout à l'heure quelqu'un qui travaille dans le domaine de la culture. Il n'a plus un centime. Depuis un an. Donc il y a un moment, moi je veux bien qu'on confine tout le monde, mais on a eu cette discussion souvent.
Voilà. Comment ? L'État sert à quoi alors ?
L'État sert à quoi ? L'État
sert...
Mais l'État c'est nous Stéphane, c'est nous qui payons, et à un moment on ne peut pas toujours tout payer, et tout le temps pendant 50 ans.
Et voilà, c'est ça.
À ce moment-là,
on ouvre les restaurants, on passe sa carte vitale au restaurant, et si on chope le Covid, on prend les frais médicaux à sa charge.
Bon, Stéphane, en tout cas, merci de votre témoignage parce que c'était intéressant. Le docteur Marty va rester avec nous quelques secondes parce que j'ai une ou deux questions à poser. Un homme ou une femme qui a aujourd'hui 55 ans, qui veut se faire vacciner. Question pratique. Restez avec nous, docteur Marty, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Laurent Tessier, c'était passionnant ce petit dialogue entre Stéphane et Jérôme Marty.
Et ce dialogue va continuer dans quelques instants. En attendant, vous pourrez réagir à cette décision. Le tribunal administratif de Grenoble a donné son feu vert à la construction d'une école musulmane privée à Albertville en Savoie. On parle de 16 classes, une école à l'initiative de la Confédération islamique Miligorus, proche de la Turquie, celle qui construit la grande mosquée de Strasbourg et qui refuse de signer la charte des principes pour l'islam de France. Écoutez la réaction du maire d'Albertville, Frédéric Burnier-Framboré, au micro-RTL de Serge.
Cette école-là de 400 élèves, clairement, elle va créer la disparition d'autres écoles publiques républicaines. Nous, c'est notre travail de tous les jours de permettre à tous les enfants d'avoir une éducation libre, éclairée, laïque et républicaine. Ce ne sera pas le cas puisque cette école est une école hors contrat. Et que du coup, on n'a aucun moyen de vérifier ce qui va y être enseigné. Et c'est là le problème.
Le préfet de Savoie parle d'un projet démesuré sur nos réseaux sociaux. William parle, lui, d'une décision scandaleuse de la justice. Où va la France, se demande Martine. Et les instances font n'importe quoi, critique Denis. Et vous, qu'en pensez-vous ? 32-10.
Jérôme Marty, restez avec nous. Jérôme Marty, j'ai plus de 55 ans. Je veux me faire vacciner aujourd'hui. Je vais voir mon médecin traitant. Est-ce que j'ai le droit de choisir mon vaccin ?
Surtout, vous avez 55 ans et vous êtes en forme.
Ah oui,
parce que la grande différence, c'est celle-là, c'est qu'on vaccine les plus de 75 ans avec des comorbidités et que maintenant, on peut vacciner tout le monde.
Oui.
Donc, on peut vous vacciner, Pascal Pro, parce que vous êtes en forme.
D'accord.
La seule problématique, c'est qu'on manque de doses, voire on n'en a pas du tout. Donc, on fait une promesse aux gens que la médecine de ville ne pourra pas tenir cette semaine ni la semaine prochaine, puisque la semaine dernière, à titre d'exemple... Je n'avais qu'un flacon, la semaine avant, je n'en avais pas. Et comme il y a un manque d'appétence de la population qui est dans le doute par rapport à AstraZeneca, nous avons des gens qui se décommandent. Et la semaine dernière, à mon grand regret, j'ai dû jeter 3 à 4 doses.
Parce que vous ne pouvez pas les garder au-delà d'un certain temps, les doses ?
Et non, une fois que c'est ouvert, on ne peut pas.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que j'ai le droit de choisir mon vaccin ? Est-ce que j'ai le droit de dire à mon médecin, moi je veux Pfizer ?
Eh non, vous ne pouvez pas choisir votre vaccin.
D'accord.
Non. Alors là, vous aurez, chez votre médecin traitant, vous allez avoir AstraZeneca et vous allez avoir du Janssen qui va arriver, mais qui va arriver aux alentours du 20-24 avril. Et là, on nous annonce 5 doses par médecin.
D'accord. Deuxième question. Là, j'ai besoin d'une statistique. On sait que AstraZeneca, parfois, ça met par terre les gens.
Oui.
Une journée, deux journées ou trois journées. Je voudrais savoir quelle proportion de gens sont vraiment touchés sur 10 par cette vaccination. Est-ce que c'est 1 sur 10? Est-ce que c'est 5 sur 10 ou plus?
Non, ça dépend de ce que vous appelez touché. On a des effets qui sont extrêmement bénins et tout à fait supportables, de type quelques maux de tête, une douleur au point d'injection, une fatigue, un peu de fièvre. Et puis, vous avez des gens qui font des événements plus importants, qui nécessitent le repos pendant un jour ou deux. On dira que c'est 1 sur 10 à peu près.
Pas plus que ça?
Non, pas plus
bon,
que
d'accord.
Ça.
Et on est d'accord
après,
que...
Et après, les drames dont on a pu parler, oui. les liens, c'est 1 sur 100 000, hein, c'est 1 sur 200 000 environ.
Oui.
Voilà, donc c'est quelque chose d'extrêmement rare. Ouais.
Avec 18 morts pour 18 millions, je crois, en Angleterre.
Voilà.
Bon. Après, ça, et donc on est dans des statistiques classiques de vaccins, parfois qui, hélas, on ne sait pas pourquoi.
Alors qu'on rappellera que quand vous faites un Covid et que vous avez des risques, le risque de vous retrouver en réa, c'est 1 sur 100. Hein.
Oui,
au-delà de 60 ans. Hein.
Alors, entre le moment où je suis piqué, si j'ose dire, AstraZeneca, et le moment où je suis immunisé, il va se passer un peu plus long que pour Pfizer. C'est 3 semaines à peu près.
Il faut compter, pour être protégé, il vous faut compter 4 à 6 semaines.
Donc, pendant ces 4 à 6 semaines, je peux avoir le Covid et développer, pourquoi pas, une forme grave.
Oui.
Non, mais c'est important de le dire, parce que j'ai l'impression que les gens, quand ils sont piqués, ils ont le sentiment d'être immunisés.
Vous avez
raison,
et on dira jamais assez ça. Les gens pensent que c'est on-off, en quelque sorte, comme un interrupteur. Je suis vacciné, je suis protégé. Non, ce n'est pas ça. Effectivement, il faut compter 4 à 6 semaines, même avec le Pfizer. Il faut compter un petit peu plus avec l'AstraZeneca, puisque vous savez qu'entre les deux doses, il y a 12 semaines d'écart pour l'AstraZeneca.
Bon, bah,
alors
écoutez,
qu'avec le Pfizer, maintenant, on monte à 6 semaines. On était à 4 semaines, on monte à 6 semaines.
Bon.
Et vous êtes protégé au bout de 4, on va dire. Quoi.
Bon, bah, écoutez,
4 semaines pour l'un, 6 semaines pour l'autre.
Je vous remercie grandement. J'ai lu hier le docteur Flau, vous avez sans doute lu son interview dans le journal du dimanche. Ça ne m'a pas beaucoup rassuré, pour tout vous dire, puisqu'il disait que la vaccination n'est pas forcément... C'est un pari audacieux que de miser tout sur la vaccination.
Mais on dit, il faut, c'est ce que je dis, il faut mettre des choses à côté. La vaccination permettra d'en sortir, mais à condition, mais si on ne veut pas que ça reparte par des variants ou autres, il faut absolument qu'on développe les autotests, le dépistage des eaux usées, des choses qui ne sont pas gênantes, quoi, mais qui apprennent à, si vous voulez, dépister tout de suite le virus, à peine il monte son nez, pam, on peut l'attraper, en faisant comme ça. Mais si on n'a pas ces moyens-là, on ne peut pas tout miser dans un seul panier.
Vous pensez que les restaurants seront rouverts le 15 mai, monsieur Marty ?
Je pense qu'ils peuvent l'être, mais il faut qu'ils travaillent sur l'aérosol et l'aération. Quand j'entends des restaurants qui nous disent qu'ils ont mis des plaques de plexiglas et qu'ils mettent une distanciation entre les tables, on leur rappelle que le principal mode, c'est l'aérosol, qu'ils sont en lieu clos, et donc il faut qu'ils travaillent sur l'ouverture et l'aération de leur salle. Et là, il n'y a pas de problème, ils pourront ouvrir.
Et on rappelle tout à l'heure que vous avez dit qu'a priori, le vaccin bloque la transmission. C'est ce que vous nous avez dit. Hein. Les études vont dans ce sens.
A priori, sur les derniers éléments que l'on a, oui.
Bon, bah écoutez, vous êtes une nouvelle fois clair, pédagogique, et vous avez réussi ce tour de force que j'ai tout compris.
Bonne journée, Pascal Pro.
Donc, je vous remercie beaucoup, Jérôme Marty. Merci beaucoup.
Vous ne voulez pas vous faire prescrire Non, il n'y a rien à faire prescrire.
Pour moi, mon cas est désespéré, il n'y a plus rien à prescrire. Mais non, mais écoutez, c'est clair, quand Jérôme Marty parle, c'est clair. Donc, c'est pas le cas de tout le monde, convenez-en. Donc, je le remercie grandement. Il est 13h35 et on va parler d'un sujet. On a l'impression parfois d'être en 1942 en France. Donc, c'est la délation. Tiens, je vais peut-être vous faire écouter, si je la retrouve, la bande annonce du film Le Corbeau de Henri-Georges Clouzot en 1943.
Donc je vous laisse la chercher, hein, vous la diffuserez vous-même du coup.
Bien sûr,
ça.
Parce que je l'ai, je vais vous l'envoyer tout de suite.
Super, merci.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Ça y est, vous avez retrouvé la bande-annonce ?
Je l'ai retrouvé. Alors, Le Corbeau, c'est un film de 1943. Ça a été tourné à Montfort-la-Maurie. Et c'est effectivement un corbeau qui envoie des lettres anonymes à tous les habitants du village pour désigner un coupable et un criminel. Donc c'est un film un peu... c'est un film classique du cinéma français qui est repassé l'autre jour à la télévision. D'ailleurs, c'est avec Pierre Fresnay. C'est avec également Monsieur Larquet, je ne sais plus son prénom, Jean Larquet peut-être, acteur absolument formidable. Pierre Larquet. Et je vous propose d'écouter la bande-annonce de ce film parce qu'on est en plein dedans, quoi.
On m'accuse d'être votre maîtresse.
Qui ?
J'ai reçu au courrier de midi une lettre anonyme, une lettre ignoble.
Que le corbeau m'a fourni de singulières précisions sur votre manière d'administrer.
Répétez ce que vous venez de dire. Répétez-le.
Allez, rentrez chez vous, je serai plus prudent.
Et si je ne veux pas être prudent ?
Parce que tout le monde ici vous croit coupable. On parlera de provocation.
Inutile d'insister, docteur, j'irai jusqu'au bout.
Donc c'est un climat de délation. Il y a également Ginette Leclerc qui boite dans le film. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont vu ce film. Et là, pourquoi on parle de délation ? Parce que un média en ligne, une publication numérique, vendredi, a mis en accusation un journaliste célèbre, Alain Duhamel, qui a longtemps été à ce micro, et puis Brice Hortefeux, coupables tous les deux, d'avoir déjeuné dans ce qu'ils appelaient un restaurant clandestin. En fait, les choses sont peut-être un peu plus compliquées que cela. C'était un salon où on pouvait dîner ce jour-là. Alors, Amine est là, il est juriste, et est-ce qu'on est aujourd'hui dans un esprit de délation ? Parce que j'ai lu ce qui s'écrivait sur Alain Duhamel et Brice Hortefeux, mais c'était sur les réseaux sociaux, c'était terrible, quoi. C'était, disons-le, c'était abject, bien souvent. Amine est là. Bonjour,
oui,
Amine.
Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Merci beaucoup de me donner la parole sur ce sujet en particulier. Et c'est vrai que on vit aujourd'hui, et en particulier avec la période de crise Covid-19, à un moment sans précédent. On vit dans une société à l'ère du tout victimaire. Et donc, on va jusque-là aller fouiller vraiment dans l'intimité, dans les affaires privées, alors sans même proposer, par exemple, à Monsieur Duhamel ou à Monsieur Hortefeux la possibilité de présenter leur défense. Ils sont déjà coupables à nos yeux parce que les images, évidemment, sont accablantes compte tenu de la réalité, compte tenu du contexte de crise. Mais il faut prendre, évidemment, cette question dans son ensemble. C'est que, évidemment, il y a deux soucis dans notre société. On a un souci de transparence publique à l'égard de nos élus, à l'égard des acteurs publics, et en même temps avec les réseaux sociaux et puis l'ère du tout numérique qu'on utilise davantage en raison de la crise. Par exemple, on télétravaille, on fait des visioconférences et donc on est indirectement impacté sur notre vie privée. On est vraiment dans cette logique d'aller en savoir plus sur les autres et on peut, et on se rend pas compte. Mais de manière globale, on peut tuer des gens de cette façon. On peut tuer des familles. On peut même inciter des personnes à perdre leur travail. Je prends l'exemple. Alors c'est un exemple qui me vient en tête. Mais avec l'avancée des réseaux sociaux, on a tué la carrière politique d'un député, Benjamin Griveaux. Et aujourd'hui,
ça c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose.
Bien sûr que c'est autre chose, mais ce que je veux vous dire par là, Monsieur Pro, c'est qu'il faut trouver la juste limite entre, évidemment, les intérêts publics et le respect de la vie privée.
Non, mais cela dit, effectivement, c'est un sujet qui nous passionne, parce que c'est un climat, et en plus, c'est peut-être une spécificité française, au-delà du numérique et de l'époque du moment. C'est-à-dire qu'il y a parfois, dans les périodes troublées, des comportements qu'on retrouve peut-être dans notre nation, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Alors Francis est là également, qui est enseignant, et c'est bien peut-être d'avoir son avis et sur ce climat qui règne aujourd'hui, avec, disons-le aussi, un esprit sans culotte, entre guillemets. C'est-à-dire, on veut des noms, on veut des têtes. Il y a aussi beaucoup de anti-élite là-dedans. Alors, est-ce que c'est justifié ou pas ? Je vous pose la question, Francis.
Bonjour Pascal et bonjour aux auditeurs.
Bonjour.
Je sais pas, je vous réponds par une autre question. C'est mal la délation ?
Ah oui, je trouve qu'effectivement c'est mal. Oui, ça je vous confirme que c'est mal. Ça,
c'est quoi la frontière entre la délation et un lanceur d'alerte, par exemple ? Est-ce que je peux faire de la délation? Par exemple, vous avez reçu juste avant un médecin généraliste, qui est un communicant, hein, un porte-parole d'un syndicat, qui est un généraliste, pas un spécialiste, et qui est un médecin, pas un ingénieur de grande école. Il vous a dit « Vive les autotests ». Il a oublié de vous dire que la semaine dernière, il y a un communiqué de l'Académie de médecine qui met en garde contre les autotests et les risques graves d'utilisation des autotests avec de la fracture nasale, d'ouverture de brèche sur des risques de méningite. Il vous a dit un mort sur 200 000, un cas grave sur 200 000 lié à la vaccination. Est-ce qu'il a oublié de vous dire qu'il y avait...
Mais là, c'est pas de la délation que vous faites. Par exemple, là, vous apportez...
Monsieur, moi, je suis en train de vous dire qu'il vous a raconté n'importe quoi.
Ah bah, on va le rappeler encore, monsieur Marty. Mais là, c'est pas de la délation. Vous n'êtes pas d'accord avec lui. C'est pas de la délation. Vous avez le droit de vous opposer à Jérôme Marty. Là, vous avez le droit.
Non. Il a une casquette de médecin, en plus syndiqué. Il vient et il vous donne la parole... La bonne parole, la grande parole du monde médical.
Il donne une
parole
d'un médecin, je ne vous dis pas qu'il a raison, mais je vous répète que là, Francis, ce que vous faites pour moi, ce n'est pas de la délation, vous vous opposez à lui, vous avez le droit.
Mais oui, mais quand il vous dit 1 sur 200 000, c'est faux. Donc c'est faux parce que...
Alors on va le rappeler, puisque vous le mettez en cause, on va le rappeler. Monsieur Marty, on l'appelle sans...
Rappelez-le,
en fait,
je veux bien.
Vous savez ce que je vais faire? C'est Monsieur Marty qui va faire l'émission maintenant.
Non.
Et c'est lui qui va dialoguer avec les auditeurs. Pourquoi pas? Mais si, tout à l'heure, c'était passionnant avec Stéphane. Donc là, vous le mettez en cause, on va l'appeler. Mais ça, pour moi, je vous dis, c'est pas de la délation. Vous vous opposez à lui.
Alors,
c'est pas la même chose.
Mais oui, mais quand Antoine Delcourt a fait de la délation sur LuxLeaks, c'est un lanceur d'alerte. Non, c'est de la délation. C'est quoi la frontière entre la délation et pas la délation? J'ai un ami à Strasbourg qui me disait ce matin que son voisin l'avait menacé d'appeler la mairie parce qu'il ne voulait pas se faire vacciner. Ça, c'est de la délation?
Il me semble, oui.
Mais non, c'est de la connerie. C'est inhérent à l'être humain. L'être humain raconte des trucs sans...
Écoutez, je vais vous lire la définition de la délation. C'est de la dénonciation inspirée par des motifs méprisables. Voilà, une bonne définition. C'est ça, la délation.
C'est
la définition du dictionnaire. Moi, je la trouve plutôt bonne. Motifs méprisables.
Oui, et c'est quoi des motifs méprisables?
Eh bien, c'est vouloir...
Votre référentiel, Pascal, n'est pas du tout le mien.
Mais je vais vous répondre, me poser une question. C'est quand c'est motivé par la jalousie, par la rancœur, par le ressentiment, par des passions tristes. Je vais dénoncer mon voisin parce qu'il gagne plus d'argent que moi, parce qu'il a plus de facilité que moi dans l'existence, que sais-je. Ça, ce sont des motifs méprisables.
Pour moi, c'est de la pure bêtise. Si votre voisin gagne plus d'argent que vous, c'est peut-être qu'il mérite ou qu'il profite d'un système autour de, je sais pas quoi, la finance ou la médecine ou autre chose.
Qui profite, j'aime bien votre manière, qui profite.
Oui, il profite.
C'est drôle.
Oui, non, mais
de dire il profite. Il profite.
Mais oui, c'est un terme
profiteur de guerre. Bon, en tout cas, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur cette discussion sur la délation et sur le climat que nous vivons aujourd'hui? Par exemple, est-ce que vous trouvez, c'est intéressant, je disais, je ne vais pas le citer d'ailleurs, mais cette publication numérique qui désigne à la vindicte populaire Alain Duhamel et Brice Hortefeux, parce qu'ils ont été, non pas dans un restaurant d'ailleurs, ce n'était pas du tout un restaurant clandestin, c'était sans doute un appartement privé, qui était visiblement une sorte de business club, dans lequel Brice Hortefeux, parce qu'il ne pouvait pas recevoir aux Républicains, dans le cadre du siège des Républicains, a trouvé cet appartement privé où ils étaient trois ou quatre à table. Bon, est-ce que vous trouvez que c'est au niveau de pointer du doigt ceux qui ont fait ce repas-là?
Vous avez dit... sans doute dans un appartement. Donc déjà, sans
non,
doute.
Non, mais c'est un appartement. C'est un appartement privé.
Ensuite, c'était une invitation ou ils ont payé parce que...
Ah non, ils ont pas. Bah, c'est-à-dire que quand, visiblement, Alain Duhamel, il n'a pas payé, Brice Hortefeux, et ça se passe régulièrement, invite sans doute quelques journalistes pour pouvoir échanger sur la vie politique. Et généralement, alors je ne sais pas s'il a payé ou pas, mais généralement, c'est en l'occurrence le Parti des Républicains qui paye, je pense.
Oui, ben, vous appelez ça de la délation. D'autres appelleront ça de la transparence. Moi, je ne peux pas aller manger dans un restaurant en payant ou dans un appartement d'un ami qui aurait fait venir un chef cuisinier qui l'aurait lui-même
payé. Pourquoi vous
ne
pouvez pas y aller, je comprends pas. Qu'est-ce qui vous empêche d'y aller?
Ben, c'est interdit.
Non, c'est pas interdit, ça. C'est pas interdit d'aller dans un appartement privé déjeuner.
Et si je paye?
Ben, si vous payez...
On a simplement déporté le restaurant dans un appartement privé pour essayer de contourner la loi.
Mais pas du tout. Moi, je peux faire venir un chef chez moi si je veux faire un déjeuner chez moi, quand même.
Oui, mais les gens que vous allez inviter, c'est vous qui les invitez, c'est pas eux qui payent.
Ben, bien sûr que non. Là, on est dans ce cadre-là. Les invités n'ont pas payé. C'est sans doute, je vous répète, le commanditaire devait être les Républicains, j'imagine. Et puis, Brice Hortefeux fait son déjeuner... avec, en l'occurrence, Alain Duhamel et un autre journaliste.
Et, sur votre antenne, on va encore faire de la délation. Sur votre antenne, on a parlé d'un tarif de 220 euros par tête.
Pas pour ce déjeuner, je pense. Ça, c'est pour l'autre déjeuner, c'est au Palais Vivienne, non?
Ben peut-être. Mais
ah oui, c'est pas la même chose. Vous voyez, c'est pas tout. Mais on va continuer la discussion. On va continuer la discussion et puis on va essayer d'approfondir. Mais c'est intéressant, là aussi, la discussion que nous avons. Chacun, j'allais dire, choisit son camp. Moi, je trouve qu'on est effectivement dans un climat de délation. Maintenant, on peut penser autrement. Hein.
Vous parlez d'une publication numérique sans donner le nom, vous pouvez pas le dire?
Vous êtes malin, Greg Caradoni. Vous êtes malin comme tout. Il est 13h50, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous avons en régie des arrivées peut-être de journalistes de la station.
Je pense.
Cher Greg Caradoni qui viennent...
Moi je ne balance pas, je suis désolé.
Non, pas de délation.
Les initiales, c'est O.
Non,
je vais pas plus loin. Allez, c'est un coup de gueule.
La liberté à chacun.
C'est un coup de gueule qui fait le tour des réseaux sociaux. Celui du joueur de tennis Benoît Paire, le français, a été éliminé d'entrée au premier tour du tournoi de Monte-Carlo. Et si on rajoute l'absence de spectateurs, là non, il en a marre.
Franchement, j'en ai rien à branler, franchement, de ce match. Mais quel est le plaisir à jouer dans des conditions pareilles? C'est un court qui est normalement le plus beau du monde. Et là, se retrouver comme si c'était une ambiance de cimetière, avec pas un bruit, qui se passe rien. Alors vous allez tous dire oui, c'est comme la vie normale. Ben, très bien. Ben moi, la vie normale, je trouve qu'elle est à chier en ce moment. Et là, le circuit, il est à chier pareil. Donc voilà, tout est pour l'instant à chier. Le seul moment de bonheur, c'est quand je suis chez moi, que je mets pas mon masque, que j'en ai rien à foutre du Covid. Et là, je me sens heureux.
Ah, ça a le mérite d'être clair. Et j'en ai marre aussi de ce quotidien, écrit Bruno sur nos réseaux sociaux. Je préfère rester chez moi. Pareil, rajoute Laurence, pas de masque, pas de distanciation à respecter, on respire. Et si vous êtes dans le même état d'esprit que Benoît Paire, eh bien appelez-nous au 3210 3210.
Monsieur Marty, acte 2. Un auditeur veut vous parler. Moi, dès qu'un auditeur veut vous parler, je vous appelle. Et faites attention parce que cet auditeur n'est pas satisfait du message que vous dites. Je vous le préviens tout de suite, Jérôme Marty. Donc, il s'appelle Francis. Francis est là. Est-ce que vous pouvez répéter à Jérôme Marty ce que vous disiez à l'antenne il y a une seconde pour que la discussion s'installe, Francis?
Pas de problème, Pascal, je faisais de la délation en indiquant que M. Marty donnait des informations totalement incomplètes, voire fausses. Par exemple, il a vanté les autotests en oubliant de dire que l'Académie de médecine, la semaine dernière, a fait une publication en mettant en garde, non seulement contre les autotests, mais contre, en général, les tests PCR, sur des risques graves de fractures nasales avec ouverture de brèches, risquant de laisser fuir du liquide méningé et donc un risque de méningite. Et ensuite, il a dit qu'on avait un cas grave sur 200 000 vaccinés, en oubliant de dire qu'il y avait une agence officielle qui s'appelle l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui publie chaque semaine un rapport de pharmacovigilance que chacun peut aller voir sur le site de l'ANSM, ansm.fr. On tape s'informer, on tape actualité, rapport de pharmacovigilance. Et là, on voit un rapport en PDF de 39 pages, dont les deux dernières pages nous donnent les effets indésirables non graves et une page des effets indésirables graves, classés par type de vaccin. Et en face de Pfizer, vous avez 311 décès. C'est l'ANSM, c'est pas Francis de Nancy qui vous donne cette information.
Alors Jérôme Marty vous répond. D'abord sur PCR, autotest.
Et troisièmement, troisièmement, et comme ça il pourra répondre en vrac, troisièmement, il avait 5 doses pour vacciner, attention, risque d'en jeter, etc., etc. Vous avez un site citoyen collaboratif, vitmadose.covidtracker.fr qui a été mis en place et qui permet, par exemple, ce matin, j'ai entendu le rédacteur de ce site expliquer que dans le Loiret, on avait 161 doses possibles tout de suite, quel que soit votre âge, parce que sinon, elles vont partir à la poubelle. Voilà, donc,
bon, on donne d'abord des informations. D'abord, répondez à Jérôme Marty. J'ai bien compris, Francis. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Francis ? Vous êtes enseignant, hein ?
Bah surtout, j'essaye de me renseigner.
Oui, alors...
Je suis renseignant.
Bon, alors, PCR et autotest, Jérôme Marty, vous n'avez pas dit les alors, dangers PCR-autotest.
PCR et autotest, oui, il y a un risque pour le RT-PCR, qui est un prélèvement nasopharyngé. Non, il n'y a pas de risque pour l'autotest, où l'on enfonce les couvillons maximum de 4 cm dans la narine, donc on va beaucoup moins profond. Quant au risque du RT-PCR, vous avez aussi un risque quand vous descendez l'escalier, vous pouvez manquer une marche et tomber. Je veux dire par là que le RT-PCR, s'il est extrêmement mal fait, et c'est pour ça qu'il demande des compétences et que l'on forme les gens qui le font, que ce soit les pharmaciens, les infirmières ou les médecins, ils sont formés pour faire des RT-PCR. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu d'accident en France depuis que l'on fait des RT-PCR. Et vous savez que l'on prélève plus de 2 millions de tests par semaine, quand on est en période où on teste beaucoup.
Bon, donc, mais autotest, en tout cas, il n'y a aucun risque.
Non, autotest... Ouais.
Donc ça, il faut le dire, parce qu'il vous accusait, Francis, qu'il y a un risque pour l'autotest. Donc là, c'est Francis qui se trompe. L'autotest...
Non, attendez, j'accepte pas ce genre d'explication.
Ah ben si. Qui fait une mauvaise lecture, exactement comme il fait une mauvaise lecture quand il parle des risques par rapport au Pfizer. Quand la NSM vous met 311 décès, c'est au monde. C'est pas en France, hein. C'est au monde.
Vous voulez jouer ça où ? Est-ce que vous les avez lus, les rapports de la NSM, pour sortir une bêtise pareille ?
Attendez, laissez.
Des dizaines de millions de personnes vaccinées, Francis.
Bon, donc trois. Pourquoi ? D'abord, restons courtois, Francis. Vous mettez en cause M. Marty, il vous répond, c'est 311 décès Pfizer dans le monde.
Eh bien, c'est complètement faux, parce que je suis devant le rapport de pharmacovigilance, le dernier, il n'a qu'à se connecter, et puis on va le faire en live, et puis on verra bien si c'est dans le monde. On a les statistiques nationales avec le nombre de vaccinés, le nombre d'hommes, le nombre de femmes, par tranche d'âge, etc.
On il n'y a pas 311 morts en France du Pfizer, enfin, c'est pas possible.
Mais c'est la NSM qui le dit, c'est pas moi.
Écoutez, je pense, je vous assure, je parle sous le contrôle de Jérôme Marty. Jérôme Marty.
Non, à ma connaissance, non.
Bon, on marque une pause et on continue la discussion à l'instant, parce que aujourd'hui, il y a combien de Pfizer, de gens qui ont été vaccinés au Pfizer en France, Jérôme Marty, à peu près ?
Je suis capable de vous dire, je ne sais rien du tout.
D'accord. La pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Il est 14h. Et on va continuer ce dialogue entre un auditeur, Francis, et le docteur Jérôme Marty. Mais après le flash, Olivier Bois.
L'entraîneur du PSG, Pochettino, donne des nouvelles de ses joueurs à la veille du retour de Ligue des Champions contre le Bayern. Marquinhos, c'est sûr, ne commencera pas. Il n'est pas assez remis de sa blessure aux adducteurs. Au mieux, il sera sur le banc. Le club décidera demain. Pour Verratti, même chose. Ce sera difficile, selon Pochettino, qu'il commence le match. Les autotests sont arrivés dans certaines pharmacies. 6 000, normalement, a priori un quart des établissements à peu près. Avec un écouvillon, vous faites le test test vous-même pour un résultat en un quart d'heure. Il est conseillé d'y avoir recours si vous n'avez pas de symptômes, mais que vous voulez quand même savoir si vous êtes porteur asymptomatique. Les plus de 55 ans peuvent se faire vacciner depuis aujourd'hui en pharmacie ou chez leur médecin avec l'AstraZeneca ou avec le Janssen à une seule injection qui commence à arriver en France. Et puis Roselyne Bachelot a repris le travail au ministère de la Culture. Elle avait dû être hospitalisée après avoir contracté la Covid. C'était le 20 mars dernier. En Grande-Bretagne, la vie à peu près un peu plus normale. C'est depuis ce matin réouverture des pubs en terrasse. Le pays est vacciné à 60% avec une première injection. Après un confinement strict également, ils sont tombés à 3000 cas par jour. Le temps demain matin, beau et froid, entre 1 et 4 degrés à peu près partout, 9 degrés autour de la Méditerranée. Et ce sera du soleil pour tout le monde et pour toute la journée. Un mot du Quintet à Compiègne, l'arrivée provisoire à l'instant. Le 8, le 3, photo finish entre le 11 et le 12. Et le 15, résultat définitif tout à l'heure à 15h.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Bon, est-ce que nous pouvons conclure cet échange, Francis ? Parce que je vous confirme qu'il n'y a pas plus de 300 personnes qui sont décédées du vaccin Pfizer en France. Ça, c'est évidemment, ce serait d'ailleurs la révolution, si vous me permettez, Francis.
Et vous me le confirmez donc ?
Mais Francis,
ça veut dire que vous êtes allé voir sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament.
Je vous répète, Francis, que si ce serait vraiment un événement important et qu'effectivement ça ne serait pas passé sous les radars de l'information. Donc je ne sais pas la source que vous citez, mais en tout cas, elle ne me paraît pas bonne, ou en tout cas, vous ne lisez pas exactement le document comme peut-être il faut le lire.
Jérôme Marty a dit c'est pas la France, c'est le monde. Donc même si c'est 311 Pfizer morts au niveau mondial, ça fait 15 jours qu'on nous parle d'AstraZeneca avec 3 sur 17 millions, 3 morts sur 17 millions, etc. Moi, je vous conseille simplement, et on en reparlera demain, vous pouvez me rappeler, je serai disponible. D'ici demain, vous allez vérifier les deux informations que je vous ai données, sur l'Académie de médecine et sur les risques d'accidents et sur les accidents déjà constatés liés aux tests PCR et aux autotests. La deuxième, sur l'Agence nationale de sécurité du médicament, rapport de pharmacovigilance.
Bon. Jérôme Marty vous répond.
Très simplement, le Pfizer est utilisé notamment aux États-Unis, fait dans différents autres pays du monde. Et on a vacciné des centaines de millions de personnes. On ne parle pas en dizaines de millions, on parle bien en centaines de millions de personnes, puisque je vous rappelle qu'on est face à une pandémie et que face à cette pandémie, on n'a pas 50, non pas remèdes, mais 50 moyens de la prévenir ou de la stopper. Le vaccin en est une, et hormis les vaccins chinois, le vaccin russe, on a le Moderna, on a le Pfizer, on a le Johnson & Johnson, on a l'AstraZeneca. Et les plus utilisés sont les vaccins à ARN, donc le BioNTech et le Moderna. Et on parle bien de centaines de millions de personnes maintenant vaccinées, avec un recul qui fait que l'on a une très 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 infime proportion d'accidents par rapport à l'utilisation de ces vaccins qui ont un taux d'efficacité qui dépasse 94%.
Allô ? Ah, Jérôme Marty, on ne l'entend plus. Mais on a un peu dévié parce qu'on était quand même sur la délation et je pense simplement, mais là aussi c'est intéressant d'entendre des gens comme Francis parce qu'il est d'une méfiance extrême, disons-le, et ce sont des personnalités qu'on aura du mal à convaincre parce que effectivement il y a un peu de complotisme même dans le discours de Francis d'une certaine manière, et effectivement il a du mal, il imagine le pire, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça sur les autotests, sur le PCR, etc. Jérôme Marty, vous répondez et vous concluez.
Oui, je conclue très rapidement. Là, pour revenir à l'autotest et pour pas que vos auditeurs aient peur, la position de l'Académie de médecine est normale. Devant tout geste médical, on se doit d'être totalement transparent sur les éventuels risques. C'est pareil que quand vous lisez une plaquette de médicaments, vous avez tous les risques d'effets secondaires, tout est exprimé. Quand vous rencontrez un chirurgien qui va vous opérer, il vous dit tous les risques de l'opération. Ben là, évidemment, si vous prenez les couvillons et que vous l'enfoncez de toute force jusqu'au bout, jusqu'au plus loin de ce que vous pouvez l'enfoncer, vous risquez de faire un traumatisme osseux avec une brèche, effectivement une brèche méningée. Mais c'est une chose qui n'arrive jamais, quoi.
Bon, bah écoutez, je vous remercie grandement. Alors, j'ai appris une information qui n'a rien à voir avec la Covid et je voulais vous la donner, monsieur Marty. Est-ce que vous savez ce que c'est que le triphalia ? Vous devez savoir, vous, ça, ce qu'est le trifalia.
Le trifalia, non, dites-moi.
Eh bien, c'est un triple pénis, figurez-vous. Et il y a un enfant, mais c'est pas drôle du tout, il y a un enfant qui est né, et ça serait la première naissance au monde d'un bébé pourvu de trois pénis. Et les parents de l'enfant ont remarqué des gonflements au niveau des testicules. Il était atteint de trifalia, c'est-à-dire qu'il est né avec trois pénis. Un premier cas recensé de trifalia chez l'humain. C'est rapporté dans un article publié dans l'International Journal of Surgery Case Reports, on l'apprend aujourd'hui, c'est un nourrisson irakien de 3 mois qui a été pris en charge par des médecins alors qu'il souffrait d'une importante anomalie au niveau des parties génitales. Il était pourvu de 3 pénis. Alors visiblement, les chercheurs n'avaient jamais eu affaire à ce genre de cas auparavant. Et on imagine que c'est peut-être l'environnement, cette malformation reste un mystère pour les scientifiques, qui l'attribuent peut-être à des facteurs environnementaux puissants comme les médicaments ou les infections. C'est étonnant, je sais... Alors, à deux pénis, visiblement, ça existe, ou ça existait, mais trois pénis pour un homme, c'est un premier cas mondial. Donc, j'imagine que le médecin que vous êtes sera intéressé par cette information.
Tout à fait. Et je vous remercie, Pascal Praud, de me l'avoir.
C'était vraiment très intéressant.
Bien sûr que c'était vraiment très intéressant. Merci Jérôme Marty. Avant de marquer une pause, on remercie Francis. Francis, enseignant exigeant, scrupuleux. Et oui, méfiant. Ben,
oui, Pascal, mais ne me traitez pas de complotiste parce que...
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait dans votre discours comme parfois des relents de complotisme, ce qui est différent.
Oui, mais relent, déjà, c'est un terme qu'il ne faut pas utiliser.
Vous appelez ça comme vous voulez.
De tests, quand il s'agit de références officielles, moi, je ne vous ai donné que des références officielles.
Non, mais je pense que là, vous la lisez mal. Il y a un truc qu'on pourrait vérifier.
Ah, mais c'est sûr que je la lis mal. Je l'ai simplement lu avec quelques médecins, et donc je la lis très, très mal.
Non, vous l'interprétez mal, pardonnez-moi, je ne veux pas être désobligeant, mais il n'y a pas, je vous répète, s'il y avait 320 morts en France...
Mais regardez Pascal et puis on en reparle demain midi.
Mais je regarde, je veux dire, tout Internet, vous tapez ça et il y a plein de papiers en fait, parce que pendant que vous parliez, je vérifiais. Et effectivement, beaucoup d'internautes comme vous, sur cette statistique, interprètent mal les réseaux. Vous allez taper vous-même, vous mettez nombre de morts Pfizer France et vous allez voir les papiers dont je vous parle. Je ne peux pas les lire à l'antenne, je ne peux pas prendre l'antenne
pour ça. Non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça que je vous ai demandé de faire, je vous ai demandé d'aller sur le site de l'ANSM.
Allez, la délation. Alors, de toute façon, c'est notre sujet du jour et on va poursuivre le débat avec Paul et Pierre qui nous attendent.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors nous sommes sur le climat de délation qui effectivement existe en France et on voulait votre avis. Bonjour Paul.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
En France, de toute façon, c'est un mal français la délation. Hein, parce qu'on s'en aperçoit depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, ça a été... C'est connu. On a eu la guerre 39-45. Avant, il y avait 14-18. Il y a eu la Révolution française. On a toujours eu de la délation. C'est malheureux, mais c'est un mal français.
Et c'est-à-dire que vous... D'abord, la Révolution, c'est peut-être un peu lointain, mais c'est vrai que la dernière période, c'est la collaboration 39-45. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous frappe, vous, dans ce climat et dans ce moment ?
Non, moi je pense qu'il n'y a plus rien qui me frappe parce que je trouve que c'est tellement futile maintenant. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans le monde et on est en train de se braquer sur ce qu'a le voisin, sur ce qu'il peut faire, sur ce qu'il gagne de plus et tout ça. Et ça, je trouve ça vraiment regrettable, quoi, qu'on soit arrivé à ce stade.
En tout cas, merci Paul. Et effectivement, vous en avez assez, vous, actuellement, de cette séquence et vous... Vous imaginez une politique alternative ou vous trouvez qu'au contraire, finalement, ces restrictions sont justifiées ?
Non, les restrictions ne sont pas justifiées. Il faut laisser vivre les gens. Je l'ai dit depuis le début. Il faut laisser vivre les gens. Et je vais vous dire, ce qui me fait rire, c'est qu'il y en a certains qui disent, il y en a, et c'est vrai, il y a des médecins qui vous disent qu'il faut vivre avec le Covid, avec le virus qu'on a, mais on en a eu des centaines et des milliers depuis la création du monde, des virus. Et je n'arrive pas à comprendre comment on croit qu'on peut gagner contre un virus. On peut lutter contre ça, mais de toute façon, on n'arrivera jamais à battre un virus.
Ça, c'est clair.
Bon, bah, merci.
Je pense que, par contre, sur la délation, sur ce qui s'est passé pour les restaurants, je trouve ça honteux parce que, bon, je l'ai dit tout au début de la pandémie, j'ai dit, vous savez, quand un gouvernement commence à interdire certaines choses, on va tomber dans le style qu'on avait aux États-Unis, vous savez, au temps de la prohibition. Avec l'ouverture de bars clandestins et tout ça, voilà.
Elliot Ness et les incorruptibles. Alors Pierre est là et bonjour Pierre, vous habitez Metz.
Bonjour
et merci. Alors je rappelle effectivement hein, que ce qui nous importe, parce qu'on a parlé d'Alain Duhamel et de Brice Hortefeux, donc en fait c'était l'appartement de la rue Quentin-Bochard où on déjeunait Hortefeux et Duhamel, c'est l'appartement du fameux chef Leroy hein, qui a transformé effectivement son appartement en club. Et effectivement, certains clients payaient, donc c'est en cela qu'il y avait une part de restaurant, on peut considérer clandestin, ce que disait un auditeur tout à l'heure, si on paye. Bon, là, en l'occurrence, Alain Duhamel était un invité, sans doute était-il de bonne foi en se rendant dans cet endroit-là. Il ne savait pas qu'il était dans un lieu où il n'était sans doute pas permis de pouvoir déjeuner dans toutes les conditions de sécurité, si j'ai bien compris. Pierre.
Eh bien, déjà, rebonjour Monsieur Pro, bonjour à tout le monde. En fin de compte, moi, je voulais réagir suite à la définition du mot délation. Alors, premièrement, j'aurais souhaité aussi un petit peu répondre à ce que l'auditeur précédent a dit, en disant que la délation était un mal typiquement français. Ça, c'est une chose qui m'horripile d'entendre ce genre de choses-là. Est-ce qu'un Suisse est un délationneur lorsqu'il informe les autorités parce que le cochon de français qui passe sur son territoire jette ses papiers par terre?
Bah, c'est un état d'esprit de le délateur. C'est-à-dire qu'après, oui. Chacun a l'état d'esprit.
Mais vous, en fait, excusez-moi, dans votre dans la définition de la délation, vous avez dit quelqu'un qui va dénoncer pour un motif maîtrisable.
Oui, c'est pas la mienne, hein, c'était celle du dictionnaire.
Mais celle du dictionnaire. Oui, mais vous êtes appuyé dessus. Bah, ce que je voulais dire par là, c'est que, en l'occurrence, non. Pourquoi on parle beaucoup de délation? On parle beaucoup de délation en raison de la situation de pandémie. Alors, je ne suis pas virologue, je ne suis pas médecin. Grosso modo, je ne sais pas. Donc, ce que je fais, je ferme ma tapette et je me protège. Et j'essaie de protéger les autres aussi. On nous dit, qu'on est dans une guerre, qu'il faut faire attention à soi et tout et tout. Le fait de dénoncer, pas de dénoncer. Moi, je pense que le fait de faire remarquer, enfin, de dire aux autorités que des gens ne respectent pas les gestes élémentaires qui nous permettraient de nous sauver tous, et je parle de nous sauver tous, ce n'est pas un motif méprisable, eh ben, je pense que c'est une action civique. Je vais vous donner un exemple. Je vais même vous en donner deux des exemples. Au premier confinement, donc l'année dernière, au mois de mars, il se trouve que des voisins, moi, militaires, ont attendu le 28 mars pour se déconfiner de façon, sauvage, en pleine nuit. Et ils sont revenus, bien sûr, après le déconfinement. Je ne trouve pas ça normal. Je veux dire, par là, il n'y a pas de poids, de mesure. Autre chose, il y a un commerce dans l'endroit où je suis.
Donc vous les avez dénoncés, vos voisins qui se sont déconfinés en pleine nuit?
Non, je ne les ai pas.
Ah bah donc, vous n'avez pas été délateur. Donc vous trouvez pas normal? C'est-à-dire qu'ils ont voulu partir, sans doute pour aller dans un autre endroit, c'est ça, le 28 mars?
Ils auraient pu partir le 14.
Mais oui, mais ils auraient pu, mais ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire qu'ils ont voulu partir en pleine nuit dans un lieu de résidence secondaire.
Alors, autre chose...
Vous, par exemple, vous n'avez jamais enfreint la loi de votre vie?
Bien sûr que si.
Ah bon?
Je dirais même que c'est... non. Bien sûr que j'ai enfreint la loi. J'enfreins la loi sciemment et des fois inconsciemment. Parce que je ne sais pas.
Là, effectivement,
mais bien entendu, j'ai jamais dit que j'étais un citoyen modèle. J'ai simplement réagi à votre définition, enfin, à la définition que vous avez.
Non, mais c'est un état d'esprit, vous comprenez.
Ce n'est pas une question d'état d'esprit. À partir du moment où on nous Pierre, dit que le fait de rester chez soi, ça permet de tous nous sauver, à partir du moment où on sort de chez soi, c'est qu'on accepte du fait qu'on va mettre en péril la santé des autres.
Non, mais Pierre,
quand dans un commerce, vous passez devant un commerce, et que dans ce commerce-là, qui a une surface, on va dire, qui ne peut accueillir
dire qu'au maximum 6 personnes, et que dans ce commerce-là, il y a 30 personnes qui sont les uns derrière les autres, eh bien, écoutez, moi, je trouve qu'il y a un moment, il faut dire, non, monsieur, c'est pas bien, aller voir le commerçant, lui dire c'est pas bien, que ça va pas, appeler les forces
de l'ordre. Et c'est à vous de le faire. Vous trouvez que c'est à vous de le faire?
Eh ben, oui, je pense que chaque citoyen doit être concerné.
Bien sûr, mais c'est un état d'esprit. Hein. Effectivement, moi, mais moi, je vous le reproche pas. C'est non, un état d'esprit. Donc, il y en a qui,
ce n'est pas un état d'esprit. Après, c'est une question de comment dire. Non, je ne vais pas aller dénoncer quelqu'un qui va faire un excès de vitesse. Je ne vais pas dénoncer. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas dans la délation. Parce qu'en fait, la délation, elle ne fait que pour servir ses propres intérêts.
Non, mais vous, vous estimez que vous avez le, comment dire, vous parlez au nom des autres et que vous êtes un juge, un procureur, etc., et que vous intervenez. Mais vous appelez ça le sens civique, mais vous avez peut-être raison d'ailleurs. Moi, je comprends ce que vous dites. Après, quand je dis c'est un état d'esprit, et même je pourrais, entre guillemets, vous respecter, vous admirer pour cela. Tout le monde n'a pas cet état d'esprit. C'est difficile d'intervenir peut-être et d'aller faire la morale aux autres, parce qu'au fond, c'est ça. Il est parti, Pierre.
Par exemple, jamais je me donnais comme donneur de leçons en disant c'est pas bien de.
Bah, un petit peu quand même, mais là, je vous laisse passer une page de publicité et on revient tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Bon, on va remercier Pierre. Et puis, effectivement, Pierre, il pose un bon débat. Quelle est la limite entre le sens civique et puis être celui qui rappelle aux autres, alors qu'au fond, il n'a pas de légitimité pour le faire, ce qu'il doit faire ou pas. Voilà, et que ça peut être pris pour un peu donneur de leçon ou leçon de morale. Bon, c'est un bon sujet. Merci Pierre.
Je vous en prie.
Merci beaucoup. Laurent est avec nous aussi. Laurent, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour. Un grand merci de m'accueillir. Je suis très content de vous avoir au téléphone. Parce qu'on partage un certain nombre de points de vue quant à la gestion de la crise. Et en l'occurrence, je pense que vous avez assez bien résumé la situation. Je pense que la délation, il y a le côté donneur de leçon qui rentre en ligne de compte et qui rend finalement cette délation détestable. En l'occurrence, quand on a entendu votre auditeur juste avant, et vous lui avez dit juste à juste titre que lui-même, peut-être probablement, il avait déjà enfreint la loi par moment. Et aujourd'hui, je pense que personne n'est irréprochable. Et une fois Thierry Orbisson avait dit que les gens qui s'élevaient en modèle de vertu étaient rarement les plus vertueux. Et deux mois plus tard, l'affaire Cahuzac était tombée.
Oui, oui, bien sûr, mais c'est, on sait, oui, on sait bien que parfois ceux qui donnent des leçons ne sont pas toujours les plus irréprochables. Mais sur le climat d'aujourd'hui, que retenez-vous de cette période?
Alors, sur le climat d'aujourd'hui, pour moi, il y a un distinguo de deux choses. C'est que les personnalités publiques ne sont pas logées à la même enseigne que le Kilam, qui s'est balancé parce qu'il a invité quatre potes le samedi soir à boire une bière chez lui. Monsieur Duhamel, il y a 15 jours, 3 semaines, à l'occasion du carnaval à Marseille, il avait traité les participants du carnaval d'imbéciles, parce qu'ils avaient le malheur de se rassembler, que c'était risqué, ainsi de suite. Je pense qu'à un moment, il faut savoir balayer devant sa porte, et un petit peu à l'instar de l'article du Canard enchaîné, c'est un petit peu la rubrique « pan sur le bec » sur ce coup-là. Un petit peu comme Brice Hortefeux qui royalement dit « Oh, j'étais pas au courant que c'était interdit. Il faudrait qu'il se renseigne ou qu'il allume la télé. » Ou un patron d'une grande chaîne d'information qui sait prendre au resto clandestin en bas de sa grande chaîne de télévision aussi. Je pense qu'à un moment, on ne peut pas vivre dans cette bivalence en permanence à reprocher au bas peuple de vouloir de se priver de tout. Moi, je suis commercial itinérant, j'ai 6 départements. Ça fait 5 mois que quotidiennement, je bouffe uniquement du fast-food le midi. Voilà, ça c'est factuel. Le soir, quand je rentre chez moi, j'ai une demi-heure pour promener mon chien. Ça c'est factuel. Et là, je vois les grands médias qui passent leur journée à nous expliquer que le confinement est la solution, alors qu'on sait pertinemment que ça ne l'est pas. Il n'y a jamais une pandémie qui a été terminée à coup de confinement. Et donc, ces gens-là, ces riches en modèle de vertu, nous endoctrinent et nous opposent les uns aux autres. Ça fait un an qu'on dit que la faute, c'est des jeunes qui font des soirées privées. Résultat des courses, la rêve en Bretagne, il n'y a pas eu un seul cluster. L'année dernière, au 14 juillet à Nice, au concert de Feder, pas un cluster, et ainsi de suite. Et
là, merci Laurent, je suis obligé de vous couper parce que c'est l'heure du débrief, mais appelez-nous peut-être demain pour continuer la discussion, puisque effectivement, on peut partager des points de vue communs. Le débrief de Monsieur Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
J'espère que vous serez gentil avec moi. Oui. Autrement, je me mets tout nu.
Quelle indignité.
La vaccination est élargie.
C'est que ce tease.
Je ne sais pas. La vaccination est élargie dès aujourd'hui à toutes les personnes âgées de 55 ans et plus. Quelle bonne nouvelle pour l'un de nos amis, Pascal.
Et motif de joie pour notre ami Bruno Guillon. La vaccination est élargie aujourd'hui à toutes les personnes âgées de plus de 55 ans.
Je vais y arriver le pic là.
C'est petit. Mais vous, cher ami Pascal, selon votre page Wikipédia, vous avez 56 ans. Alors, 12h03, tout à l'heure, votre état d'esprit?
Je me pose la question depuis 8h ce matin.
Ah, et Christelle Robière insiste vraiment dans RTL Midi.
Ah, d'ailleurs, est-ce que vous allez vous faire piquer alors, puisque vous êtes éligible désormais?
Mais écoutez, je pense...
Ouais, et même le docteur Jérôme Marty s'y est mis, hein, pour être sûr.
Vous allez y pourrir, j'espère.
Je vais courir. Courir, c'est un bien grand mot pour un homme de cet âge-là, mais je vais essayer de marcher vers la pharmacie ou le médecin, cher docteur.
Bon, sinon, Stéphane nous a donné son avis sur la vaccination.
Je ne me sens pas concerné non plus par ce qu'on appelle un vaccin, mais qui n'est pas un vaccin, en fait. Là, ça n'empêchera pas d'attraper le Covid, ça empêchera simplement les formes graves. Et ça n'empêchera pas la transmission.
Alors, appelons un spécialiste pour vérifier.
Alors, écoutez, moi, je veux bien qu'on appelle le docteur Marty, qu'il entre avec vous.
Eh bien, appelons notre ami, le docteur Jérôme Marty. La réaction du docteur, mesdames, messieurs.
Les éléments que l'on peut avoir maintenant nous montrent que vous êtes pas contaminant ou très peu contaminant, contrairement à ce que l'on pensait jusqu'à présent.
D'accord.
Donc, il y a une efficacité sur la contamination.
Francis, au 3210, autre chose à rajouter après l'intervention du docteur?
Je suis en train de vous dire qu'il vous a raconté n'importe quoi.
Ah bah on va le rappeler encore, monsieur Marty, mais là c'est pas de la délation, vous n'êtes pas d'accord avec lui.
Bon, dans ces cas-là, rappelons le docteur Marty.
Monsieur Marty, acte 2. Un auditeur veut vous parler. Moi, dès qu'un auditeur veut vous parler, je vous appelle.
Les aventures du docteur Marty, bientôt sur vos écrans. Allez, un dernier mot, Pascal, sur ce débrief.
Vous êtes une nouvelle fois clair, oui, pédagogique, et oui, vous avez réussi ce tour de force que j'ai tout compris.
Oh, vous êtes formidable. Là, Greg Caronini me dit que vous avez encore une info pour briller dans les dîners clandestins.
L'info pour briller au dîner.
Alors, à deux pénis, visiblement, ça existe. Où ça existait, mais trois pénis pour un homme, c'est un premier cas mondial. Donc j'imagine que le médecin que vous êtes sera intéressé par cette information.
Tout à fait. Et je vous remercie, Pascal Praud, de me l'avoir.
C'était vraiment très intéressant.
Bien sûr que c'était vraiment très intéressant.
C'est une histoire qui n'a ni queue ni tête.
Oh, bonne punchline de Greg Caranoudi en direct. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson préférée du gouvernement sur la campagne de vaccination.
Et ça continue encore et encore.
C'est lundi et c'est le retour de Flavie Flamand. Nous ne l'avons pas vue le samedi et le dimanche à RTL. Elle nous manquait et elle est là de retour. Et c'est un peu de lumière, de soleil qui va entrer.
Vous n'écoutez jamais RTL le samedi matin.
Mais je l'écoute. Ah, je vous dis que je ne l'ai pas vue. Je l'ai écoutée samedi matin. Je peux même vous dire de quoi elle parlait. Je l'ai écoutée samedi matin.
Donc, dites-nous.
Je lui dirai à l'oreille. Ah. À tout à l'heure.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.